Le monde chiite, autour des différentes autorités religieuses, est un monde éclaté. Nous ne sommes pas dans un monde unifié où il y aurait une équipe de dirigeants qui donnerait des instructions autour de quelques hauts dignitaires. Et on a cru au début du conflit que les chiites d'Irak se tourneraient spontanément vers l'Iran, qui est le grand frère chiite, entre guillemets. C'était ignoré que, même si on a la même religion, on n'a pas forcément les mêmes options géopolitiques. Donc, il faut être très prudent et ne pas faire des équations systématiques en disant « puisqu'ils sont chiites, ils sont ensemble ».
Oui, mais alors au-delà de l'aspect purement religieux, quels sont les intérêts de Téhéran dans la région? On a vu que l'Iran avait proposé une réunion régionale pour examiner la situation à Najaf.
Alors la position de Téhéran, l'Iran est dans une situation assez curieuse, il est complètement encerclé aujourd'hui, les Américains sont dans le Golfe, ils sont en Turquie, ils sont en Afghanistan, ils sont en Irak, et l'Iran se rend bien compte qu'il a intérêt, si vous me permettez, à filer droit. Et donc il y a une volonté de contrôler le chiisme irakien, pour montrer que l'Iran est finalement une puissance relativement pacifique dans la zone et qui concourt à l'effort de paix.
Mais est-ce que l'Iran pourrait avoir armé la rébellion des chiites? On a vu qu'il y avait eu des arrestations d'Iraniens en Irak récemment.
Moi, je crois qu'évidemment, une puissance régionale comme l'Iran doit en sous-main soutenir certains mouvements à l'intérieur de l'Irak. Maintenant, armer Al-Sadr, c'est quand même très dangereux pour les Iraniens, parce que toute leur stratégie, c'est de montrer qu'ils sont le facteur essentiel de la paix au Moyen-Orient, pour ne pas eux-mêmes un jour devoir être envahis par les Américains. Donc moi je crois qu'ils ont certainement un rôle très important, un rôle difficile pour eux d'ailleurs, parce que les Irakiens n'ont pas très envie de se faire commander par les Iraniens, même s'ils sont tous les deux chiites. Donc il faut arrêter de croire que les étiquettes religieuses peuvent rendre compte de tous les phénomènes géopolitiques.
Mais est-ce qu'il y a une politique des chiites d'Irak?
Aujourd'hui je crois que la politique des chiites, qu'ils soient modérés ou extrémistes, elle est très simple. Ils sont sur le point de devenir majoritaires en Irak, et ils veulent tout simplement contrôler l'ensemble du pays, y compris les zones kurdes et les zones sunnites.
Pour terminer, est-ce qu'on peut prévoir une stabilisation régionale à court ou à moyen terme?
La vraie question, c'est de dire, est-il possible de rétablir un consensus national en Irak? Je pense que beaucoup d'Irakiens souhaitent quand même maintenir l'État-nation irakien. Qui en prendra le contrôle? Alors là, ça commence à mal tourner, parce que les Kurdes ne veulent pas d'un Irak dominé par les chiites. Les sunnites, qui ont quand même exercé le pouvoir pendant 80 ans dans ce pays, sous différentes formes, de la monarchie à la république, aux parties basses, n'ont pas non plus envie d'être dominés. Donc, pour l'instant, je ne vois pas comment on peut stabiliser ce pays. Alors, on avait pendant un temps songé à le fédéraliser, à peu près en trois grandes zones, chiites, sunnites et kurdes. Mais les voisins de l'Irak ont fait savoir aux États-Unis qu'ils n'avaient pas du tout envie, parce que les Turcs n'ont pas envie d'avoir un Kurdistan semi-indépendant. Les Iraniens et surtout les Saoudiens n'ont pas envie d'avoir une grande région chiite au sud de l'Irak. Donc si on reste dans une clé de lecture identitaire confessionnelle, c'est pas évident qu'on puisse stabiliser ce pays à horizon d'un an ou deux.
Et l'Iran, si j'ai bien compris, n'a pas intérêt à déstabiliser la région.
L'Iran, certes, ne veut pas trop se mêler pour continuer à montrer qu'il est un gentil garçon, mais je dois dire quand même que les désordres qui existent en Irak contribuent à faire monter le prix du pétrole, qu'à Téhéran, on se réjouit quand même. Donc tout ça est infiniment complexe et nécessite chaque fois qu'on aborde ces problèmes une grande nuance. Et n'oublions pas que nous sommes en Orient, c'est-à-dire que le principe de non-contradiction n'y est pas appliqué comme chez nous et qu'on peut mener plusieurs stratégies à la fois.